Chapitre 6. Au-dessus du port d'Eris se dresse une rangée de petites maisons blanchies par les éléments, et en contrebas un parking dans lequel la Toyota Prius de Becker pénètre à 11h23. On distingue encore le passage qui mène à l'île. Ce n'est que le début de la marée montante, et l'eau n'a pas l'air très profonde. Mais le panneau à l'entrée de la chaussée submersible promet un sort funeste aux imprudents qui tenteraient leur chance en dehors des horaires autorisés. Voûté au-dessus du volant, Becker scrute la masse gris et vert que forme l'île d'Eris. Sur la pointe sud-est, il devine une tache blanche, la maison de Vanessa, si proche et pourtant inatteignable. La prochaine marée basse est à 20h, ce qui signifie qu'il ne pourra pas traverser avant 17h. Il hésite un instant à rentrer chez lui, mais il ne veut pas prendre le risque de décevoir Sébastien, ni de passer pour un incapable. Et puis, ce n'est pas comme s'il était condamné à attendre sans rien faire. Il a emporté son ordinateur portable, il peut toujours travailler. Surtout qu'il a beaucoup de choses à lire. C'est décidé, il va se trouver un endroit où déjeuner et faire du tri dans ses notes. Mais dans un premier temps, il a besoin de se dégourdir les jambes. Il sort de sa voiture, s'étire. Un vent frais souffle en bourrasque depuis la mer. Becker enfile son manteau, fourre son téléphone portable dans sa poche et traverse le parking en direction de la rangée de maisons. Après les avoir dépassés, il s'engage sur un sentier côtier qui s'éloigne du village. Au bout de 400 mètres, le chemin se met à grimper raide jusqu'à former une frontière étroite et périlleuse entre les champs verts émeraudes d'un côté et la falaise abrupte de l'autre. Au-dessus de Becker, le ciel est encore bleu pâle, et ce n'est que lorsqu'il se tourne face au vent qu'il remarque les nuages anthracites qui se sont accumulés à l'ouest. Il hésite. Peut-être qu'ils ne feront que passer. Confiant, il reprend sa promenade, mais il n'a pas marché 30 mètres que les premières gouttes s'abattent sur lui avec un bruit mat. Vite, il rebrousse chemin et redescend la pente à grands pas, la tête rentrée dans les épaules pour tenter de se protéger du déluge. Dès que le sentier s'élargit, il se met à courir, glissant dans la boue. À l'approche de la rangée de maisons, il ralentit et prend le temps d'essuyer la pluie sur son front et ses joues. C'est alors qu'il aperçoit quelqu'un à la fenêtre du dernier cottage. Un visage inquiet, collé à la vitre. Surpris, il s'arrête net. Mais quand il veut vérifier qu'il n'a pas rêvé, il n'y a plus personne. Seulement un pot, posé sur le rebord. De retour dans sa voiture, essoufflé, il allume le chauffage au maximum. Il retire ensuite son manteau trempé et le jette sur la banquette arrière pour se rappeler quelques secondes plus tard que son téléphone est resté dans la poche. Après avoir essuyé la buée sur ses verres de lunettes avec sa chemise et effectué quelques contorsions, il parvient à le récupérer et constate soulagé qu'il a assez de réseau pour accéder à sa Dropbox et aux documents qui y sont sauvegardés. Il y a là des portraits de Vanessa, des critiques de son travail, des avis de décès, ainsi que quelques articles de presse publiés après la lecture du testament de l'artiste. The Times, 4 mars 2017. Une artiste de renom lègue l'équivalent de plusieurs millions de livres sterling à son ennemi juré. Vanessa Chapman, qui est décédée d'un cancer en octobre dernier après avoir vécu plusieurs années recluse sur son île, a légué l'intégralité de son patrimoine artistique à l'homme qui l'avait traînée en justice, a-t-on appris hier. Ses biens, d'une valeur estimée à quelques millions de livres, ont été transmis à la fondation Fairburn, une institution créée par le philanthrope et marchand d'art Douglas Lennox. De 2002 à 2004, Lennox et Chapman se sont déchirés devant les tribunaux, après que Chapman a refusé sans préavis de présenter ses œuvres à l'exposition qui devait lui être consacrée à la galerie Glasgow Moderne, détenue par Lennox, causant à ce dernier un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de livres. L'affaire a fini par se régler en privé. Lennox a déclaré que la décision de Chapman avait failli le ruiner et que le stress engendré par cet épisode avait affecté à la fois sa santé et son mariage. Les critiques remontent aux toutes premières expositions de ses œuvres au début des années 1990, période à laquelle Chapman était encore considéré comme une paysagiste traditionnelle. Un journaliste du magazine Art Future loue ainsi son utilisation exubérante de la couleur et l'expressivité de son travail au pinceau, tout en jugeant ses toiles futilement nostalgiques. Chapman a le mérite de nager à contre-courant de la vague actuelle du conceptualisme, écrit-il. Pour paraphraser Dylan Thomas, elle rage, enrage contre la mort de la peinture. Ensuite, Chapman s'est orienté vers l'abstrait, et les critiques se sont montrés de plus en plus enthousiastes. En 1995, The Independent évoque l'exposition Painting Today au South Bank Center. L'étoile saturée de couleurs de Chapman occupe un espace à la fois intrigant et palpitant entre abstraction et figuration. Néanmoins, Becker note que la presse spécialisée semblait beaucoup plus séduite par l'œuvre que par l'artiste elle-même. Si les peintures de Chapman sont pleines d'audace, il se dégage de ses céramiques tout en délicatesse, une retenue et une froideur à l'image de leur créatrice. Par la suite, cette tendance est devenue un véritable leitmotiv. On saluait le talent de Chapman, on louait sa beauté, ses yeux noirs, sa peau parfaitement lisse, sa silhouette élancée, sa grâce naturelle. Mais on étrillait son tempérament. On lui reprochait notamment d'être capricieuse, désagréable, impatiente, renfrognée, têtue et inflexible. En relisant ces extraits, Becker se met à remuer sur son siège, mal à l'aise. Ce portrait au vitriol dressé par la presse ne correspond pas à l'image qu'il se fait de l'artiste qu'il aime et dont il admire la sensibilité. Il continue d'éplucher les articles à la recherche de références aux sculptures et aux céramiques de Chapman, mais tout ce qu'il trouve semble traiter exclusivement de ses peintures. Il lit, relit, jusqu'à ce que, bercé par le bruit des vagues, il finisse par s'assoupir. Il se réveille en sursaut. Alors que son subconscient tente encore de se raccrocher aux bribes d'un rêve perturbant, Becker constate que quelqu'un, un enfant, croit-il dans un premier temps, est en train de tambouriner sur le capot de sa voiture. Cette personne porte un gilet de sécurité jaune fluo, par-dessus un sweat à capuche gris, beaucoup trop grand pour elle, et gesticule en désignant le panneau « Camping interdit » à l'autre bout du parking. « Parce qu'il a l'impression que je fais du camping, cet imbécile ?» marmonne Becker en ouvrant sa portière, et il s'approche de la minuscule silhouette qu'il surplombe aisément. « J'attends seulement que la marée redescende pour pouvoir rendre visite à Grace Aswell, sur l'île, » explique-t-il. « Vous savez à quelle heure il sera possible de traverser, d'ailleurs ?» La personne relève la tête et Becker sursaute en reconnaissant le visage sous la capuche. C'est celui qu'il a aperçu un peu plus tôt derrière la fenêtre du cottage. Une femme à la peau tannée par les ans et au rictus figé. « Pardon ?» demande Becker en voyant les lèvres de la vieillarde remuer, mais celle-ci s'éloigne déjà en direction des maisons. Après quelques pas, elle se retourne brièvement vers lui avant de reprendre sa route. Becker remarque qu'elle ne porte pas de gants et qu'elle n'arrête pas de serrer et desserrer ses petits poings blancs. Soudain, une vague se fracasse contre le quai du port avec un bruit sourd, comme une explosion étouffée. Becker se réinstalle au volant et se rappelle alors que dans son rêve, il était aussi dans la voiture. Il était dans la voiture et de l'eau s'infiltrait par les grilles de ventilation et par la jointure des portières. Sur la banquette arrière, il y avait un bébé en pleurs.